Bonjour Stéphanie.
Bonjour Nicolas.
Alors Stéphanie Delestre, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Comptoiria pour ce 65e épisode. Tu es une des invitées que je voulais le plus avoir en ce moment, à plein de niveaux, parce que tu as une personnalité extraordinaire, parce que tu as fait plein de choses et parce que tu as un sujet IA avec Volubile que je trouve extra. Donc toi, Steph, tu es la cofondatrice de Kappa, qui était une très belle success story de l'Internet. Tu l'avais revendue donc à Adecco en 2021. C'était une plateforme d'intérim digital. Tu étais aussi précédemment la CEO de Kype, un site d'avis client, donc super aventure internationale européenne. Et maintenant, tu fais encore beaucoup parler de toi à deux niveaux avec Volubile, et ça va être un gros sujet là dans notre podcast. Et aussi parce que tu es investisseur jury dans Qui veut être mon associé saison 4. Et donc, moi, j'ai l'impression que tu es une des plus visibles de tous les candidats, alors que pourtant, il y a quand même du beau monde, Tony Parker et tout ça. Et donc, moi, j'habite à Neuilly, si tu veux, juste à côté d'M6. Et quand je descends de chez moi, je suis avec mon fils et tout ça, il y a Stéphanie qui est affichée en 4x3 sur l'immeuble d'M6. Donc, non, super émission qui veut être mon associé. Et je crois que tu as vraiment marqué les esprits avec ta personnalité incroyable.
Ah, bah c'est gentil. Merci beaucoup pour ton invitation dans ton podcast. Je suis vraiment super heureuse d'être ici. Et puis, bravo à toi aussi, parce que pour tenir 65 podcasts, il faut être courageux, il faut le rappeler. J'ai appris hier que quasiment 90% des podcasteurs arrêtent au bout du 9e.
Exactement.
Donc, tu vois, faut de la résilience.
Et tu vois, moi, alors, et je confirme tout à fait sur ce chiffre. Et en fait, moi, je l'ai vu. Et je crois même que tu as un 99% au 20e épisode. Donc derrière, toutes les personnes qui sont dans le podcast et qui marchent bien te disent, en fait, c'est juste un jeu d'endurance. Si tu passes cette barre, grosso modo, des 20 épisodes, c'est bon, tu as gagné, quoi. Tu vois, il faut juste s'accrocher.
Ces gens-là sont un peu durs, hein, parce que moi, pour avoir lancé mon podcast aussi dernièrement, je peux te dire que c'est énormément, énormément de boulot.
Ah, je te confirme, Steph. Et j'ai vu, oui, donc ton podcast qui est super sympa, avec Orso Media.
Ouais, c'est ça, avec Orso Media, qui s'appelle On lâche rien. Ah, et Madinès aussi, qui le promeut. Donc voilà, des beaux partenaires. Et c'est une belle aventure, parce qu'en fait, je me suis posé la question depuis un petit moment. De savoir si j'allais lancer mon podcast. Et en fait, avec l'émission, effectivement, Qui veut être mon associé, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes entrantes, de personnes qui me disent « Steph, est-ce que je peux te pitcher ma nouvelle idée ? Steph, est-ce que je peux t'envoyer mon deck ?» etc. Bon, et quand on reçoit plusieurs dizaines, voire centaines par jour, il y a des moments où tu te dis « en fait, je ne peux pas ». Et moi, j'ai du mal à dire non, parce que j'aurais bien aimé qu'on soit là quand moi, j'ai lancé ma boîte de la même façon. Et donc, l'idée du podcast est vraiment venue comme ça, de se dire, finalement, si je peux partager à tout le monde des bons invités et puis des bons conseils, c'est cool. Et inversement, c'est aussi pour ça que moi, je suis dans le tien aujourd'hui, spécialiste de l'IA, parce que nous, on se lance dans l'IA avec une nouvelle startup, effectivement, qui s'appelle Volubile.ai. Et donc, pouvoir parler de l'IA, démocratiser l'IA, parce que on se rend compte quand même que, comme toute révolution, tout changement, les gens ont peur. Je trouve que c'est une super initiative de ta part. Donc, merci beaucoup de faire ce podcast.
Merci Steph, ça me touche, c'est trop sympa. Petite recommandation. Donc, déjà, on voit pour ceux qui nous écoutent, on voit une magnifique bouteille de vin derrière toi.
Non, c'est pas une bouteille de vin, c'est un vase de déco.
Ah ouais, excuse-moi.
Et alors, non, mais attends. Alors, je vais te dire, aucun problème. Moi, une de mes passions dans la vie, c'est bien manger, bien boire. Voilà.
Ah, donc, voilà. Au moins, c'est clair.
Ouais, c'est des bons moments de partage. J'aime bien ça. Mais non, c'est un vase de déco, regarde.
Écoute, il me fait quand même penser à une bouteille de vin, mais oui, franchement, il est superbe. Et alors, attends, et ce que je voulais dire aussi, c'est la première fois que je fais vraiment cette promo, mais donc, je t'ai écouté hier et ces derniers jours dans l'excellent podcast, évidemment, de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas. Et je dois dire que cet épisode 370, tu vois, quand on parlait d'épisode 65, cet épisode 370, il est vraiment excellent, il est énorme, Stéphanie. Et donc, depuis, c'est ce truc génial avec le podcast aussi, c'est que ça crée une proximité. Donc moi, j'ai l'impression de te connaître depuis que j'ai écouté ce podcast. Et félicitations aussi pour le tien, là, On Lâche Rien, qui révèle, je pense, un peu ton trait de pugnacité, ta rage, mais dans le bon sens, où tu fais énormément de choses. Et donc, allez écouter ce podcast sur l'histoire de Stéphanie et cette personnalité, cette voix, ce timbre que tu as qui est extra, en tout cas, qui passe super bien en audio.
Oh, bah tant mieux, cool, merci beaucoup.
Alors, Steph, maintenant, lançons-nous sur l'IA générative. Ouais. Comment tu as vécu, toi, l'année dernière, l'année 2023, et la révolution de l'IA générative?
En fait, pour moi, ça a été vraiment une révolution incroyable, puisqu'en fait, j'ai compris fin 2022 que grâce à cette révolution de l'IA générative, j'allais pouvoir lancer une boîte qui allait résoudre plein de problèmes et surtout les problèmes que moi j'avais eu avant dans mes précédents métiers et mes précédentes responsabilités. Pour te donner un exemple, chez Kappa, un de mes gros soucis, c'était d'arriver à manager mes SDR. Donc les SDR, c'est ce qu'on appelle les Sales Developer Representative ou les chasseurs, que quasiment toutes les entreprises ont, ces fameux chasseurs qui sont chargés de trouver des nouveaux clients pour l'entreprise. Et déjà de caler des rendez-vous pour les commerciaux, soit les commerciaux sur le terrain, soit les commerciaux experts. Et en fait, c'est un métier très, très difficile, très compliqué. Moi, j'ai fait du cold call chez Kappa pendant 10 ans et j'adore ça, mais c'est quand même très compliqué. Et souvent, les très bons SDR, au bout d'un moment, ils te disent « Bon, bah, Stéphanie, maintenant, j'aimerais bien être account manager, donc plutôt éleveur. » Et donc, en fait, quand j'ai vu l'IA générative arriver, je me suis dit « Bon, bah, Steph, c'est bon. » Grâce à cette révolution, tu vas pouvoir en fait automatiser des tâches pénibles, répétitives. Donc là, on parle principalement d'appels sortants, des appels commerciaux sortants, soit pour faire de la qualification de lead, soit pour faire de la prise de rendez-vous, mais aussi dans les appels entrants. Encore une fois, chez Kappa, moi, j'avais beaucoup de calls entrants de la part de mes intérimaires, soit des questions sur leur mission à venir, soit des questions sur leur fiche de paye. Et là, leur fiche de paye, quand tu as plusieurs milliers d'intérimaires et donc au même moment, tu envoies toutes les fiches de paye, tu peux être sûr que quasiment instantanément, les intérimaires appellent en disant « Voilà, j'ai pas vu le remboursement de mon pass Navigo ou j'ai pas, je pense peut-être qu'il y a une erreur ou là, peut-être que vous m'avez payé trop. » Bon, ça arrive à vraiment.
Bien sûr.
Et là, je me suis dit, en fait, sur mes deux plus grosses pains que j'avais chez Kappa, j'ai la solution technologique pour automatiser ces calls-là. Alors, la particularité de Volubil, donc notre nouvelle start-up, c'est que dans l'IA génératif, tu as beaucoup de monde en ce moment qui est en train de se lancer sur ce qu'on pourrait dire du texte, c'est-à-dire de faire des chatbots et c'est la machine qui écrit le texte. Nous, la particularité, c'est qu'on s'est lancé sur la face nord de l'Everest, comme ça, on s'est dit, allez, faut quand même qu'on soit beaucoup plus unique. Et donc, Volubil, c'est du vocal, c'est-à-dire que c'est un agent, une machine qui parle comme un être humain et donc qui est capable de faire des appels sortants et des appels entrants. Et ça, j'en avais toujours rêvé. Et donc, grâce à l'IA, c'est parti mon kiki. Et donc, ça, c'est vraiment, on est en train de vivre une révolution incroyable, vraiment incroyable.
Écoute, je comprends très bien. Donc, par rapport à tes activités précédentes, c'est sûr que tes pain points, là, ça y répond complètement. Tu vas nous en dire plus sur la solution, sur la technique. Et donc, toi, vraiment, tu vois ça décembre 2022, tu te dis « Waouh, c'est dingue !» Au niveau pro, au niveau perso, tu te dis « C'est incroyable !» Quels sont, toi, les outils que tu utilises le plus d'IA dans ton quotidien et comment ?
Alors, moi, principalement, en dehors de Volubil, ce que j'utilise le plus, c'est ChatGPT pour le moment. Parce qu'en fait, c'est vraiment
un compte plus ?
Alors, pas encore. Tu vois, okay. Parce qu'en fait, j'ai mon ancienne associée qu'elle compte plus et moi, je fais exprès de rester en compte normal pour qu'on puisse comparer. Donc, on s'échange les comptes. ChatGPT, moi, je m'en sers.
C'est vrai, hein. Excuse-moi, Steph, c'est vrai. Pour avoir pas mal échangé, en tout cas, il y a pas mal d'entreprises, de boîtes qui font tourner des comptes ChatGPT+, comme ça, et des comptes d'outils Midjourney. On est encore dans l'échange là-dessus. Ça se passe beaucoup.
Ouais.
Et oui.
Et donc, moi, je m'en sers principalement, tu vas être surpris, mais pour soit valider des choses que j'écris, soit lui demander des idées. Donc, par exemple, je lui dis, tiens, c'est la fin de la saison de Qui veut être mon associé. Qu'est-ce qui pourrait intéresser mes lecteurs sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter? Quels seraient les sujets intéressants? Voilà. Donc, mais c'est juste, tu sais, c'est juste pour me relancer mon cerveau quand il est un peu fatigué. Donc voilà, autrement, j'écris tout toute seule, je réponds tout toute seule, mais j'aime bien. Et puis surtout, ça me permet de, parce que je l'utilise quotidiennement, ça me permet de voir comment il évolue dans le temps.
Ouais, évidemment.
Et donc, en fait, je m'en sers comme d'un benchmark pour voir les évolutions rapides, sa compréhension plus rapide de ce que je lui demande. Et on utilise certaines idées pour Volubile.
Oui, excellent. Oui, donc, mais ce que tu dis là, c'est très intéressant, ton utilisation brainstorm avec ChatGPT, qui va contre la pensée courante, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, qu'on évangélise sur le sujet, c'est croire que on est sur de la data, de l'IA à l'ancienne, réservée à des matheux et sur des sujets compliqués. Alors qu'en fait, non, cette IA générative, elle est 100% créative, elle est super forte en création, en inspiration, et on peut s'en servir comme tu le fais.
Alors, je mettrai aussi des limites.
À tout le monde.
Ouais. Je mettrai aussi des limites, parce que, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais l'IA générative, aujourd'hui, elle s'appuie pour travailler sur les milliards et milliards de textes ou d'écrits qui sont disponibles sur Internet. Et puis aussi, bien sûr, sur les vidéos, les images. En revanche, il lui manque les autres sens que sont le toucher, le goût, l'odorat. Et donc, ces sens-là, quelquefois, on voit que ça lui manque dans la partie créative. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Mais déjà, ce qu'elle est capable de faire, c'est incroyable. Et puis après, moi, je m'en sers aussi pour tester des prompts. Donc, ces fameux prompts qui sont en fait comme une espèce de guide qu'on va donner aux IA pour qu'elles nous répondent, mais dans un cadre qu'on va lui prédéfinir. Et je m'en sers aussi pour ça. Donc, l'IA, on peut lui parler, par exemple, ChatGPT, que tout le monde connaît aujourd'hui, on peut lui parler de façon librement en disant écoute, j'ai un mariage ce week-end, est-ce que tu peux m'écrire un discours vite fait, bien fait?
Bien sûr.
Et donc, elle va s'inspirer toute seule, ou on peut lui écrire un prompt en lui disant « J'ai un mariage ce week-end, dans les deux, il y en a un qui est divorcé et qui a déjà deux enfants, je voudrais que ce soit un ton plutôt sympathique. » Voilà. Donc, vraiment lui écrire ce cadre. Et là, moi, je teste beaucoup les prompts pour savoir comment ChatGPT évolue, sachant qu'on n'a pas dit un truc important, c'est que moi, ouais. je ne suis pas développeur ou CTO. Ça, c'est vraiment mon fondateur, Julien Ross. Donc, moi, j'ai vraiment cette approche d'un point de vue beaucoup plus user-centric, marketing, voilà.
Oui, c'est sûr. Mais après, je sens aussi que tu connais quand même, tu as bien compris en fait les outils, dans le sens où là, tu viens de décomposer ton prompt pour ton mariage, hein, en parlant d'une personnage, je suis quelqu'un, d'une action que tu souhaites, rédiger un discours, quelque chose, sous une certaine forme, un discours structuré, et peut-être en procédant par étapes. Donc, c'est quand même super. Est-ce que selon toi, Steph, ChatGPT a passé le test de Turing?
Alors, tu sais quoi? Je suis allée voir qu'est-ce que c'était le test de Turing.
Heureusement, parce que personne ne connaît la définition exacte. Donc, mais vas-y, t'as bien
Alors,
fait.
Attends, je te le retrouve, ne bouge pas. Donc, Je mets mes lunettes. Le test de Turing est un test d'intelligence artificielle visant à déterminer si, par le biais d'une conversation en ligne, un ordinateur peut convaincre un humain qu'il est humain. D'accord ?
Yes.
Alors, voilà la petite définition. Alors, d'après toi, est-ce que ce serait quoi pour toi le truc cool pour que notre machine allait passer le test de Turing? Ce serait quoi? Tu t'attends quoi pour que je te réponde à cette question? Tu vois,
J'attends ton sentiment. Je ne veux pas t'influencer trop, mais pour moi, c'est complètement passé depuis GPT 3.5, GPT 4.
Mais concrètement, tu vois, dans un call, qu'est-ce qui te ferait te dire que l'humain, il pense que c'est un humain et pas une machine?
Ah bah c'est dans la situation, tu vois, c'est une réponse qui te semble humaine. Bon, dans le test, tu vois, c'est la comparaison, tu vois, entre deux réponses aussi, une réponse générée par la machine et une réponse générée par l'homme. Mais en fait, c'est simplement si je suis dans un naturel de la conversation, tu vois, on va dire.
Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, nouveau lubie, il a passé le test de Turing.
Ok.
Puisque,
veut dire que l'IA générative est d'une certaine manière, ChatGPT le passe, ok.
Puisque et quand on passe des calls. Donc, quand la machine volubile passe des calls à des êtres humains, ça peut être des commerciaux, des chefs d'entreprise, des standardistes, etc. Il se trouve que pour le moment, on utilise beaucoup ma voix.
Mmh, okay.
Donc, à la fin, les gens, ils disent tous « Au revoir, madame
». Voilà. Excellent, excellent. Donc, j'imagine que vous avez fait un clonage de malade de ta voix.
Non, parce que c'était plus facile au début. Et puis bon, comme tu m'as dit qu'au début que j'avais une jolie voix, aussi chez Volubile. Et voilà. Et donc, à la fin des calls, souvent, les clients me disent « Au revoir, madame ». Donc, ça veut dire que c'est gagné.
Ah bah ça c'est génial. Est-ce que tu sais si… Est-ce que tu as des… Ah oui, tu préviens en fait pendant le call que c'est une IA qui les appelle ou tu préviens pas? D'accord. Donc, et alors, est-ce que tu as des stats dans ce cas-là sur qui se rend compte que c'est une IA ou pas?
Oui, et elles sont très faibles.
Et elles sont très faibles. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, ils pensent être face à toi, à Stéphanie Delestre ou à un être humain en tout cas. Et ils finissent par dire au revoir madame.
Ouais.
Extraordinaire. Extraordinaire, waouh. Donc c'est un énorme. Ça, c'est... Bah, écoute, donc là en fait tu me réponds à la fois sur le test de Turing, mais tu me réponds aussi sur la qualité de ton service. Je t'ai fait passer un petit message il y a deux semaines là en préparant l'épisode parce que j'ai vu une IA qui a fait une démo très intéressante qui s'appelle Retail.ai et qui faisait une petite couche, tu sais, intermédiaire donc entre les modèles et la voix. Et le truc qui était incroyable dans cette démo, c'était savoir quand se taire, gérer les interruptions, rajouter des phrases de soutien, du que moi je fais beaucoup, montrer qu'on écoute, tout ce qui est inné chez les humains, mais en fait, et sans ça, en fait, on a l'impression de parler à un robot. Ça, j'imagine que c'est des trucs sur lesquels vous travaillez beaucoup pour avoir ce résultat.
Alors en fait, oui, mais ça, c'est un peu du gadget. Parce
D'accord.
que quand ta voix est très bien faite, et quand ta machine est très bien faite, pour moi, c'est un peu du discours marketing. Voilà. Ce sur quoi nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé, c'est ce à quoi tout le monde pense, c'est la latence. C'est-à-dire que, tu vois, dans une conversation normale, en fait, tu vas dire « Ok, moi, je vais repartir tout de suite », etc. Or, on fait du code, des maths. Et la machine, faut qu'elle comprenne ce que tu lui dis, toi. Et il faut qu'elle décide de ce qu'elle va te répondre, tout ça en un temps quasi réel, pour qu'on reste dans la perception qui est la plus importante de cette conversation avec deux humains. Moi, il y avait un truc qui m'avait vachement marqué. J'ai regardé une série qui s'appelle The Playlist. Alors, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand j'en parle, me disent « n'ont pas regardé ». En fait, c'est l'histoire de la création de Spotify.
Ah oui, oui.
Ouais. Et dans cette série, à un moment, il y a Daniel Ek, le fondateur, le créateur de Spotify, qui parle avec son CTO. Et le CTO est super fier de lui annoncer que ça y est, il a réussi à créer Spotify Et donc, tu vois l'interface de Spotify et il dit à Daniel Ek, donne-moi une musique, donne-moi un chanteur et tu vas voir, la musique va arriver. Et donc, Daniel Ek, je ne me souviens plus de la musique, lui dit, tiens, j'ai envie de telle musique de Prince, voilà. Et la musique apparaît. Et là, Daniel Ek ne réagit pas et le CTO se retourne vers lui en disant, mais t'en penses quoi, quoi? Et il dit, ça ne va pas. Il dit, mais pourquoi ça ne va pas? Il lui dit, parce qu'en fait, le temps où toi, tu tapes la musique, tu fais Hunter et où la musique apparaît, ce temps-là est trop long, cette fameuse latence. Mmh. Et pour nos utilisateurs, nos users, et l'impression que c'est en temps réel, et donc là, le waouh effect, il faut que ce soit en dessous d'une certaine norme dans laquelle ton cerveau pense que c'est en temps réel, même si toi, tu as un tout petit temps de latence. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé et qu'on a... Et voilà.
Oui, non, t'as raison, on veut du streaming et pas du téléchargement. Et, voilà. Et d'accord, vous avez énormément travaillé là-dessus, ben c'est génial. Vous utilisez des modèles, donc je pense que justement vous devez utiliser des modèles, vous n'allez pas recréer forcément des modèles fondationnels, ce ne serait pas votre intérêt. Ouais. Et vous communiquez sur les modèles que vous utilisez, les différentes briques ou pas?
Alors, d'abord, tu as raison, on utilise des LLM hein, qui sont mis à disposition. Bon, on l'a vu, créer un LLM, c'est énormément d'argent. C'est des centaines de millions et on l'a vu en particulier en France avec Mistral. Donc, nous, notre métier, ce n'est pas d'être un concurrent à Mistral. Notre métier, c'est d'utiliser les LLM et on est agnostique sur les LLM en fonction des besoins du client parce qu'il y a des LLM qui répondent plus ou moins bien en fonction de telle ou telle campagne de vocal voulue par un client. Voilà.
Ok, très bien. Ok, super. Et sur la solution de text-to-speech, grosso modo, ça c'est vous avez aussi enfin vos briques et certainement des outils open source que vous utilisez.
Alors, c'est un sujet compliqué, tes questions, parce que tu l'as compris. Alors, il y a beaucoup de startups qui se mettent sur le texte parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, l'environnement est déjà très, très, très encombré. Nous, on est sur la face nord de l'Everest, mais on a des concurrents, principalement américains.
Oui.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on communique pas sur… tu vois, on communique pas trop sur notre cœur. Quoi. On garde ça vraiment, c'est notre secret sauce.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est stratégique, tu vois, pour notre développement.
Évidemment, non, ailleurs, et je comprends 100%, Steph. C'est votre recette, et t'as bien raison de la garder confidentielle. Ouais. Mais par contre, en effet, on comprend que voilà, que c'est un empilement de modèles et des modèles DLLM et du text-to-speech, mais surtout pour arriver donc à un résultat canon. Est-ce qu'on peut le tester le service?
Alors non plus.
Parce que en vrai ça on a hyper envie quoi, tu vois. Enfin, en tout cas moi quand j'ai fait cette démo là retail, mais enfin là l'objet c'est vraiment
surtout de volume. Mais c'était assez bluffant. Est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie, tu vois?
Steph, et regarde et pour l'anecdote. Tu sais, moi, j'ai fait un épisode, donc avant toi, j'ai fait un épisode avec, qui était assez dingue, parce que j'ai fait un épisode avec la fonction voix de ChatGPT.
Ouais.
Et donc, je l'ai interviewé, tu vois, directement. Donc, j'ai parlé vraiment à ChatGPT avec la fonction de voix. Et c'était dans mes tout premiers épisodes, le jour de la sortie de cette fonction de voix. Donc, avant toi, dans la liste de mes invités, à un moment, il y a ChatGPT fonction voix.
Génial.
Et, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, cet épisode, il était extra. Je l'ai fait en une prise. Hein. Ça dure entre 22 ou 25 minutes. Mais il y avait... évidemment, tu vois, sur la latence et tout ça, on n'était pas du tout dans le naturel. Et à la fin, je lui dis pas merci madame, tu vois. Enfin,
oui, bien sûr. Alors, nous, on s'est repéré quand tu as des démos fake ou des démos vraies. Après, ce que fait ChatGPT, ça reste quand même d'un niveau extraordinaire. Hein. Encore une fois, ça n'existait pas, quoi. En tout cas, ce n'était pas à notre disposition avant octobre-novembre 2022. Donc, tu vois, ça... même pas encore tout à fait 18 mois, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable. Nous, pour le moment, on réserve aussi nos démos à nos clients.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, non, je comprends tout à fait. Et, mais c'est sûr que, et en plus, cette fonction voix, elle est accessible dans la version gratuite de ChatGPT. Ouais. Donc, c'est extra. Mais c'est sûr qu'on est, on n'est pas encore donc, dans le conversationnel, dans la fluidité de la conversation.
C'est la couche, tu vois, qu'on crée, quoi, chez Volubile.
Après, peut-être que je l'ai testé sans le savoir, Volubile. On m'a appelé, tu vois.
Alors, c'est vrai qu'on s'en sert aussi, qu'on s'en sert aussi pour caler des rendez-vous pour nous-mêmes. Donc, c'est un peu rigolo. C'est pour tester, quoi. Voilà. Mais non, on le réserve vraiment à nos premiers clients. Hein. Tu sais, on a créé la société en septembre 2023. Donc là, on est vraiment maintenant, on commence le déploiement chez les clients.
Trop bien. Sur la mise en place de Volubile chez un client, ça se passe comment? Ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un expert, un architecte qui intervient?
Oui, alors aujourd'hui notre équipe tech est assez réduite et c'est elle qui fait ce déploiement-là. Ça dépend vraiment, tu vois, ça dépend de la taille des clients, ça dépend des outils que les clients utilisent, ça dépend des objectifs des clients. Mais ça peut aller super super vite parce que tu as aussi des produits sur étagère où tu as des clients qui ont souvent quasiment les mêmes demandes. Donc après, tu adaptes le service à vraiment des spécificités, mais voilà, donc ça va très très vite. Et puis l'enjeu aussi, tu as raison, c'est le déploiement, donc il faut aller super vite.
Oui, je comprends.
La force qu'on a, si tu veux, c'est qu'on a créé la société from scratch, hein, de zéro, avec tous ces outils-là. Aujourd'hui, la difficulté de beaucoup, beaucoup de sociétés, c'est quand tu dois intégrer de l'IA dans tes services, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Nous, c'est complètement natif. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'aller super, super vite.
Ah ouais, non, c'est super. Je comprends tout à fait, t'as pas d'historique à gérer là-dessus, tu vas hyper vite. Et en fait, tu profites des évolutions du marché, des nouveautés qui sortent. Donc
c'est un vrai challenge pour le coup. Parce que comme t'as des évolutions, j'ai envie de dire, si tu prends tous les LLM, t'as des évolutions, mais toutes les semaines. Et pas des petites, tu vois. Donc en fait, ça c'est un vrai challenge de rester au niveau sur tout ce qui se passe sur l'IA.
C'est sûr. Vous faites de l'entrant et du sortant sur les appels, alors?
Oui.
Et donc, il y a des différences entre les deux ou il y a des choses que tu ne voulais pas faire au début? Comment ça se passe?
La principale différence, c'est que sur du sortant, on a commencé par le sortant. Et sur le sortant, c'est plus compliqué parce qu'en fait, tu appelles quelqu'un qui ne t'attend pas.
Ouais.
Donc ça veut dire que les enjeux tech, d'IA et de qualité sont très 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 élevés. Mais quand tu sais faire du sortant, tu sais très 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 bien faire de l'entrant. Et nous, c'est notre cas.
Merci pour cette explication, Steph. C'est hyper clair. C'est vrai qu'il y avait une démo qui avait fait beaucoup parler. Qui était, tu sais, il y a la démo de RAI il y a 6-8 mois, qui était un appel sortant pour une réservation d'essai de Tesla, quoi, tu vois, grosso modo. Est-ce que c'était truqué? Je ne sais pas, mais à la fin, tu vois, le mec, il prenait un rendez-vous pour aller faire son essai automobile de Tesla au Texas, quoi. Enfin...
Écoute, moi, si quelqu'un peut me contacter sur R.AI, ouais. Parce que honnêtement, j'ai écouté la démo, je l'ai trouvée fake pour plein de raisons. On ne va pas dire là aussi comment on le sait. Et après, si tu veux, j'étais étonnée parce que tu vois, sur le site, tu as juste une page, tu ne peux pas aller ailleurs, tu n'as pas de contact. Je me suis dit, c'est très, très bizarre ce truc. J'ai regardé s'il y avait une levée. Donc, sauf erreur, attends, je vais re-regarder là.
Mais je suis totalement d'accord, Stéphanie, ça a posé beaucoup de questions. Pour l'instant, on a rien vu, quoi, tu vois, en effet.
Voilà, c'est très très bizarre, tu vois, même quand je vais. Quand je vais sur Crunchbase, ouais. Qui est un peu ma Bible pour voir toutes les levées qui ont été faites, ils y sont pas. Donc c'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Donc, si quelqu'un a des infos, contactez-moi sur LinkedIn avec grand plaisir.
Yes. Et moi aussi, on est très intéressant. On va essayer de faire la lumière sur RAI.
Exactement.
Et
on va se
voilà.
mobiliser là, tous ensemble.
Exactement. On va faire la due deal.
Ouais.
Alors, excellent. Stéphanie, on est obligé de parler d'un gros sujet là, du week-end. Encore un autre buzz. C'est l'affaire Klarna. Donc, Klarna, qui est une plateforme de lending, de paiement en plusieurs fois, qui agit donc en intermédiaire donc entre les marques et les clients, qui permet de faciliter en tout cas donc leurs transactions. Klarna a déclaré que grosso modo, ils avaient un assistant IA qui venait de gérer sur le mois dernier 2,3 millions de conversations, l'équivalent de 700 emplois, 700 emplois d'agents en tournant 24 heures sur 24. Cet agent, ils ont communiqué là-dessus, c'était un petit topo. Il traite les réponses, les problèmes 7 fois plus rapidement. Les questions à répétition, donc récurrentes, ont baissé de 25%. La satisfaction client reste au même niveau et ils peuvent faire des économies de 40 millions de dollars. Ça a fait un énorme boom là, ce week-end. Téléperformance a perdu 25% donc sur de son cours de bourse, sur la gestion sur les centres d'appel. Ce dossier Klarna, là, et moi j'ai fait un post dessus, ça pose beaucoup de questions. On se dit, waouh, hyper impressionnant, mais en creusant un petit peu, on se dit, mais est-ce que finalement, tu vois, c'est pas qu'une espèce de méga filtre où ils redispatchent et ils renvoient les besoins vers le client, où ils font intervenir un humain. Comment est-ce que tu vois Klarna, là, et c'est leur communication sur les agents?
Alors, d'abord, tu as raison, il y a eu un gros crash boursier, puisque même la cotation de Téléperformance a été suspendue quelques instants.
Ah ouais.
Ils ont perdu jusqu'à 27%. Après, dans la journée, ils ont repris à peu près 12%, sauf erreur de ma part. Donc, ils ont perdu 15% qu'ils n'ont pas rattrapé depuis. Dans la foulée, sur la cotation américaine, Concentrix, le numéro 2 mondial, puisque Téléperformance est le numéro 1 mondial, Concentrix, qui a racheté Webhelp il y a quelques mois, a perdu lui aussi 15. Et je crois, au final, ils sont à moins 12. Bon, il faut savoir que ce n'est pas une nouvelle récente, puisque l'année dernière, quasiment au même moment, quand le patron de Téléperformance avait communiqué ses résultats, il avait juste une phrase pour dire que, en fait, la plus grosse menace pour Téléperformance, c'était l'intelligence artificielle. Et là aussi, il y avait eu une forte chute boursière, sachant que quand tu regardes le cours de bourse de Concentrix et de Téléperformance depuis quelques années, il baisse fortement. Ouais. Alors après, moi, je veux quand même rappeler que Téléperformance, numéro un mondial, très belle société avec des très gros clients, des très beaux clients, un service qui tourne aux petits oignons. Idem pour Concentrix ou Webhelp, quoi, des boîtes extraordinaires. La réalité quand même, c'est que nous, on le voit avec Volubil, oui, on va disrupter ce marché-là et on va le disrupter de façon très, 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 très rapide. Pas surtout, je ne pense pas qu'un jour Volubil soit capable de vendre des avions à la place des directeurs commerciaux de chez Airbus, parce que c'est un marché très particulier où il faut beaucoup d'entre-gens, ça prend beaucoup de temps, etc. Mais la réalité, nous, on le voit tous les jours aujourd'hui, c'est que nous, notre agent conversationnel est capable de remplacer des téléopérateurs. Alors, je mets tout de suite un warning, hein, parce que autrement, je vais me recevoir des mails en disant « Ouais, mais Steph, tu détruis l'emploi. » Alors là, j'ai deux warnings. Le premier warning, d'abord, c'est que celui qui me dit ça, il a intérêt à avoir été téléopérateur dans un call center dans sa vie. Moi, je l'ai été, les gars, d'accord ? Moi, je l'ai été. C'est un métier très difficile. C'est un très beau métier où on apprend beaucoup de choses, mais c'est un métier où aujourd'hui, les call centers ont énormément de mal à recruter. Les call centers aujourd'hui, quelquefois, n'arrivent pas à délivrer les objectifs des clients parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Et quand tu as été un très, très bon téléopérateur, bah, c'est comme chez Kappa avec mes SDR, tu veux devenir chef de plateau, etc. Deuxième sujet, l'intelligence artificielle, dès maintenant, aujourd'hui, on ne parle pas dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dès aujourd'hui chez Volubil, elle est capable de faire des tâches, les simples tâches très répétitives. Et donc, nous, ce qu'on dit aussi, c'est que ces métiers-là, en fait, l'intelligence vient en support des téléopérateurs pour apporter un service d'encore plus grande qualité. Voilà. c'est peut-être ce que Klarna a mis en place, c'est-à-dire de dire sur vraiment les petites tâches, etc., ou les gens qui appellent la nuit à 2h du matin, bon, etc., etc. Donc, en fait, nous, on voit vraiment chez Volubil le fait que notre machine aide, est en support de tous ces métiers-là pour que les téléopérateurs aient plus de temps pour faire du travail de plus grande qualité. Voilà. Mmh. Pour revenir sur la réalité, moi, ce que j'ai, la réalité, c'est que les cours de bourse, c'est pas moi qui les fais, hein. Les cours de bourse, il suffit de taper action téléperformance ou action Concentrix. Les cours de bourse, ils sont en baisse. La deuxième réalité, c'est que la révolution de l'IA, elle est là. Et que, encore une fois, chez Klarna, on parle beaucoup de textes, hein, pas beaucoup de voix, parce qu'encore une fois, à la limite, on va peut-être aller les voir, tiens, pour leur proposer Volubil.
Ouais. On est sur des agents textes, exact.
Voilà, donc sur la voix, t'en as pas beaucoup dans le monde qui sont capables d'apporter un service de qualité, mais ce service de qualité existe puisqu'il existe chez nous aujourd'hui. Voilà, et troisième point, des révolutions, il y en a toujours eu, quoi. Il y en a toujours eu. Il y a eu, là, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est Bill Gates, hein. Bill Gates qui dit, il y a eu la révolution de l'électricité, ensuite, il y a eu la révolution de l'Internet, maintenant, on est à la révolution de l'IA. Et le patron de Google ou Bill Gates, l'ancien fondateur de Microsoft, ils disent tous que oui, ça va changer le monde. Donc, il ne faut pas en avoir peur. On reviendra peut-être là-dessus. C'est vrai que, selon moi, les entreprises vont avoir un très, très gros boulot de formation et d'accompagnement de tous leurs collaborateurs, hein. Pas seulement des commerciaux ou des téléopérateurs, mais des marketeurs, des supports clients, de la logistique, etc. Mais tant mieux, parce que c'est que pour du mieux pour toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le monde.
Oui, bien sûr.
Klarna, pour moi, pour te rajouter un point qui a été très important pour moi, bien c'est sûr. Que Klarna a eu le mérite. Alors, je rappelle aussi, hein, c'est quand même une boîte qui a levé 4,5 milliards. Si tu veux, ils ne racontent pas n'importe quoi comme ça, parce que autrement, ils ont des investisseurs au-dessus et des actionnaires qui leur diraient, les gars, vous ne pouvez pas. Donc, je pense que cette communication a été revue. Mais la communication de Klarna, pour moi, elle a eu le mérite de mettre des chiffres sur ce qui se passe. Exactement ce que tu as dit, quoi. Exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, cette intelligence, elle permet à Klarna de gagner 40 millions de dollars. Et surtout, elle leur a permis de faire baisser le temps durée moyen d'écoute, de call, en fait, de 11 minutes à 2 minutes. Alors, après, je pense que ce qu'ils disent pas, c'est qu'il leur a fallu aussi beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que c'est relié à tous leurs outils. Et nous, c'est ce qu'on propose aux entreprises, c'est-à-dire un service où nous, on a déjà fait le job pour eux. Parce que quand, par exemple, tu es Andros, c'est que ton métier, c'est de faire des confitures et tu le fais très, très bien, ça va être compliqué pour toi de recruter des spécialistes en IA qui vont être capables de te développer un service où tu vas avoir une machine qui va appeler tes clients ou alors qui va prendre le call de tes clients en entrant. C'est pour ça que nous, on a créé Volubil, pour mettre cette technologie et cette machine à disposition de toutes les entreprises.
Ah oui, non, mais je comprends très bien. Et tu as raison. Je rajoute sur Bill Gates, hein, il dit aussi, entre 1900 et 2000, la part de la population active américaine travaillant dans l'agriculture est passée de 40% à 2%. Si on se replace en 1900, on te dit ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, simplement, je pense qu'aujourd'hui, on est sur une révolution un petit peu du même ordre. Et ce que nous dit Bill Gates aussi, c'est que sur cette révolution-là, sur l'agriculture, aujourd'hui, on est beaucoup plus heureux qu'à l'époque, enfin, en tout cas sur la pénibilité du travail, qu'à l'époque où tout le monde bossait dans une ferme. Et en fait, c'est ça qui va se passer aussi. Par rapport à ce que tu dis sur Klarna, vas-y, je t'en prie, Steph.
Notre engagement à nous tous, spécialistes de l'IA, c'est d'accompagner, de communiquer, d'expliquer, de mettre à disposition des entreprises ou des particuliers des services tellement innovants qu'il y a ce waouh effect et où après tu ne peux plus t'en passer. Voilà, évidemment. Et donc nous, notre responsabilité, c'est de bien faire les choses.
Oui, tout à fait. Et tu vois, moi, la communication de Klarna, je l'ai trouvée intéressante parce que c'est quand même, c'est de la transparence. Et je pense, enfin, tu vois, c'est la méthode OpenAI aussi, c'est mettre les choses sur le marché. pour en parler. Ça ne sert à rien d'avancer dans l'ombre, entre guillemets. Et je pense que, tu vois, là, ce qu'ils ont présenté là va nous permettre de réfléchir, de discuter et de comprendre un peu. Enfin, j'ai vu ça sur ton site, c'est chez vous, l'agent gère tous les appels de vos clients, les questions sur les produits et services, la gestion des commandes, les demandes d'assistance technique, le suivi de réclamations, les demandes de retour. Justement, c'est bien comprendre ce que ces agents peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas encore faire pour le moment, quoi.
Après, ça va très, très vite, hein, tu vois. Donc, nous, notre métier, entre guillemets, original, c'est d'avoir créé une machine qui comprend et qui converse comme un être humain. Après, l'application... nous on est B2B, hein, donc on la vend aux entreprises, mais on peut la décliner sur beaucoup de leurs besoins.
Bien sûr. Et par rapport à ces cas, tu vois, la question que je me pose vraiment, c'est un peu sur l'histoire des agents, tu vois. Quelles sont les tâches, tu sais, que justement l'être humain doit garder, comment, tu vois, est-ce qu'on arrive à se dire, et ce que tu vois avec tes clients, tiens, ça, c'est trop sensible, ça, on doit repasser dessus ou pas? Et est-ce que ça évolue? Enfin, pour moi, c'est pas évident.
Je vais faire une réponse que tu vas pas aimer. Ouais. Moi, je pense que... voilà, tu as parlé du test de Turing. Voilà, moi, j'adore ce film Enigma, qui est vraiment extraordinaire. Je pense que voilà, Turing en parlait déjà dans les années 40. C'est lui qui a déchiffré les codes secrets de l'armée allemande grâce à sa machine, donc une première machine intelligente, le premier ordinateur. Donc je pense que, encore une fois, les machines, elles sont capables de faire beaucoup de choses et tant mieux pour nous. Hein. Tu sais, si on veut parler d'un enjeu sociétal, de plus en plus de collaborateurs veulent travailler 4 jours, veulent profiter plus de la vie quand c'est possible. On a la chance d'être en France, dans un pays où c'est possible, hein, parce que bon, voilà, on ne va pas te faire d'histoire ou de politique ici. Tout ça, ça ne sera rendu possible que grâce aux évolutions des machines qu'on est en train de créer. Donc, il faut bien garder en tête. Nous, voilà, nous, on est sur des sujets qui sont... où on veut vraiment apporter du bon support aux collaborateurs et aux entreprises, et sur des tâches qui sont pénibles, quoi. Donc on sait que ça marche.
Oui, super. Bah, écoute, bravo pour ces valeurs, en tout cas. Est-ce que tu te dis pas que dans les années qui viennent, donc moi, Volubile, sincèrement, j'ai l'impression que ça a l'air très très bien parti. Je pense que tu vas nous signer plein de super clients, et d'ailleurs je sais que tu sais très bien faire ça, mais et est-ce qu'à un certain moment tu risques pas d'avoir de te retrouver dans on risque pas de se retrouver dans une situation IA contre IA, tu sais, où Volubile m'appelle et moi, en fait, tu sais, j'ai mon IA qui s'appelle je sais pas comment, qui va lui répondre, ou qui reconnaît, tu vois, que c'est une IA et qui va lui répondre, tu vois, enfin, est-ce qu'on va
bien sûr qu'on y a pensé. Bien sûr. Alors, qu'on y a pensé.
Ah, tant mieux. Ouais,
tu sais quoi ? Je crois qu'on sortirait, je publierais dans LinkedIn tous les matins les punchlines top ici, mais qui nous feront bien marrer de la veille entre deux machines.
Clairement, très bon. Hâte de voir ça.
Ouais.
Mais comment allez-vous ? Ouais, tout à fait. Ouais. Merci, madame. Merci. Ouais. Alors, ok, trop bien. Donc, ça, c'est top. Au niveau de Stéphanie, donc maintenant, allons un petit peu plus large, donc dans l'impact sociétal. Est-ce que pour toi, ces IA, il y a des gens qui dialoguent dessus au niveau personnel, qui dialoguent avec. Il y a Replica, tu vois, qui est une solution d'avatar qui va être une relation humaine que tu peux avoir. Tu peux avoir, par exemple, une relation de... Tu as des personnes qui ont un peu des relations de couple, hein, avec ces avatars. Tu as des personnes qui dialoguent. Ça va être un Tinder où, en fait, tu vas interagir avec une IA. Donc, je pense qu'il faut voir déjà l'exploit technologique. Après, ça peut être très dangereux pour certaines personnes. Pour certaines personnes isolées, de temps en temps, ça peut leur faire du bien de parler aussi à ces IA. Comme ça peut être, j'en ai déjà parlé ici, c'est il y a des coachs, hein, de temps en temps. D'ailleurs, toi, tu nous as dit que d'une certaine manière, Alors qu'on pourrait se dire que tu es la première à pouvoir te payer les services d'un coach, de CEO ou je ne sais pas quoi. Toi, tu t'en sers comme d'un coach pour brainstormer. Comment est-ce que tu vois ces IA, tu vois, plus sur la relation humaine, personnelle, dans la relation avec l'autre, le coaching?
Je pense que la France, au niveau État, devrait, plutôt que de commencer à réglementer et à nous faire chier, devrait voir plutôt le potentiel de l'IA. Par exemple, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. D'accord ? Mais il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'éducation. Pourquoi ? Parce que ouais, l'éducation, c'est là où les professeurs forment l'esprit critique et l'esprit de synthèse. Et en particulier, cet esprit critique, il est super important parce que derrière, il te permet de débattre. On sait que le débat dans la démocratie, c'est important, qui te permet aussi d'identifier des fake news, etc. etc. Quant à cet esprit critique, les fake news, tu les vois tout de suite. Hein. Et moi, je me disais un truc qui pourrait être bien, je viens d'une famille de profs, hein, c'est d'utiliser l'IA, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de profs en France et qu'on a du mal à les former. C'est ouais, comme les téléopérateurs dans les call centers. Eh bien, l'IA, elle pourrait très bien nous faire un premier niveau d'apprentissage où, comme ça, ça dégagerait du temps aux professeurs de rabâcher toujours 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2, machin, mais pour faire des jeux à côté, pour passer du temps avec les élèves en difficulté et, je rajoute, pour passer du temps avec les élèves surdoués et de voir comment on les fait travailler ensemble parce qu'un élève qui a plus de potentiel peut aider un élève avec moins de potentiel, etc. Parce que pendant ce temps-là, certains élèves pourraient suivre des cours et qui seraient les mêmes partout en France. Donc, il n'y aurait pas de problème de niveau puisque ce seraient les mêmes cours, tu vois, faites par un avatar et une IA qui pourraient répondre à un premier niveau de questions, etc., etc., etc. Bon, c'est une idée, c'est une idée. J'en ai une autre, l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui, que moi, je respecte le plus au monde et pardon, je ne vais pas me faire des amis, mais avant de respecter le médecin, je respecte encore plus l'aide-soignant qui lave le malade et l'infirmière qui va lui prendre le temps de lui parler, etc. Donc, bon, on sait que l'hôpital en ce moment est en danger, mais pourquoi ? Il y a des hôpitaux où 50% du personnel de l'hôpital, c'est du personnel administratif. D'accord ? On sait que la population française, elle vieillit, et donc, il va nous falloir de plus en plus de soignants, d'infirmiers, de médecins. Mais bon, l'argent, on ne le pompe pas, hein, malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne le pompe pas. Et donc, une idée, c'était de se dire, automatisons un certain nombre de tâches de l'hôpital grâce à l'IA pour qu'au fur et à mesure du temps, on puisse former plutôt des médecins, des infirmiers et des aides-soignants que du personnel administratif. Pardon, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est juste mathématique. Quoi. 1 plus 1 égale 2, j'adorerais que 1 plus 1 égale 4, mais ce n'est pas moi qui décide. Pareil, c'est l'univers qui a décidé ça. Donc, ce que je me dis, c'est qu'en fait, on a une opportunité extraordinaire. Extraordinaire. On est déjà en France, le plus beau pays du monde,
ouais,
grâce à notre géographie, grâce à nos agriculteurs, grâce à tous les métiers, les architectes, les maçons, etc. Bon, voilà. On a déjà la chance d'avoir le service public le plus extraordinaire du monde, mais qui nous coûte très cher et on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours évident à tenir. Donc moi, je dis, profitons de cette opportunité de l'IA pour simplifier des tâches, pour redonner du temps aux gens de faire leur premier métier. Et ça, l'IA peut nous le faire. Bon, pardon, c'était mes deux petites minutes. Donc moi, je vois l'IA comme une opportunité extraordinaire pour la France. Le principal risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, qui vont encore nous restreindre, nous limiter, nous machiner, nos trucs. On n'a même pas commencé, quoi. On n'a même pas commencé que déjà, on nous interdit des trucs. Moi, je dis, comme en mai 68, il est interdit d'interdire. Voyons ce qui se passe. Et de toute façon, le législateur et l'État sera bien là pour faire attention au fur et à mesure. Mais arrêtons de prévoir avant que les choses soient faites.
Ah non, mais merci Stéphanie, merci pour ton franc-parler, ça fait du bien, c'est ce que je dis ici tout le temps aussi, cet AI Act interdire et réglementer alors qu'on ne sait pas du tout où ça va, c'est beaucoup trop tôt, on n'est pas passé loin de la catastrophe.
Encore une fois, c'est pas comme si on était dans un pays ou dans la communauté européenne où on savait qu'on avait du mal à interdire, nous on sait qu'on sait trop facile à interdire. Donc, comme on sait que c'est trop facile de le faire, laissons un peu d'air. Ouais, voilà. Ouais. Encore une fois, moi, quand je vois ce qui est en train de faire Mistral, c'est juste extraordinaire. Et moi, je suis très, très fière que ce soit en France. Je suis très, très fière. Avec des ingénieurs extraordinaires qu'on fait pour leur jeune âge, qu'on fait des carrières extraordinaires aux États-Unis, qui décident de revenir en France, de recruter en France, de lancer un concurrent LLM. Voilà, c'est…
Réjouissons-nous et donnons-leur un cadre ouvert pour expérimenter, pour aller au bout de leurs rêves. Voilà. Et après, 100% d'accord sur ce que tu viens de dire, utilisons l'IA pour désengorger tous les services publics, utilisons l'IA pour toutes les professions en burn-out. Tu les as cités, les médecins, les aides-soignants, les profs, pour faire un maximum de choses par l'IA. Il faut le voir vraiment, je pense, comme la solution et surtout pas comme le problème.
Et nous, on est vraiment au service des entreprises pour les aider à rester compétitifs dans un contexte mondial qui est de plus en plus concurrent. Et donc, voilà.
Écoute, ça fait du bien. Je pense que le message va passer. Stéphanie, comment est-ce que tu vois, toi, les grandes découvertes que l'IA peut nous amener et est-ce que tu penses qu'une IA peut être consciente un jour? On va un peu plus loin, là.
Ouais, alors, deux choses. Moi, je suis bluffée aussi, donc c'est pour ça. Je sais que je suis d'un naturel très optimiste, hein, mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis entrepreneur. Je suis bluffée par ce qui se passe dans la medtech. C'est-à-dire, par exemple, il y a des IA, ce que j'ai compris. Je ne suis pas du tout médecin, je n'ai pas de compétences spécifiques en médecine, mais je lis beaucoup, je m'intéresse, je rencontre des gens, j'écoute, je pose des questions. Par exemple, des IA sont capables de lire des millions de radiographies ou d'IRM, d'imagerie, et d'en sortir un diagnostic. Donc oui, alors, il y a aussi beaucoup de probabilités, machin, mais par exemple, tout ce qui est sur l'imagerie en ce moment dans les medtech, j'ai lu aussi que des startups se lançaient dans les maladies rares, etc. Je trouve ça tellement extraordinaire et je pense que là aussi, l'IA va permettre une nouvelle révolution dans la médecine. Et moi, honnêtement, j'ai perdu mon père d'un cancer en quelques semaines, j'ai perdu beaucoup de monde de ma famille. Si on peut trouver... Et puis bon, notre vie à nous tous, hein, parce qu'on est tous mortels. Si un jour on peut trouver d'autres soins, d'autres... vous avez compris. Et y a tellement de boîtes qui sont en train de travailler là-dessus, des grosses aussi. Hein, on pense à Sanofi. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Alors, ta question, c'est est-ce que une IA développée par les LLM peut être consciente?
Ah, merci, merci. Tu me fais les deux questions, c'est super sympa.
Alors, je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'IA ne fait que prédire en faisant des probabilités sur des mots. D'accord ? Donc, aujourd'hui, une IA ne réfléchit pas. Voilà, donc on en est encore loin. Il y a encore beaucoup de boulot. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'une IA soit consciente. Après, je pense qu'il va se passer des dizaines d'années. Et puis, il y a un truc qui manque, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle apprend sur des milliards de textes, de mots. Et un enfant, par exemple, ça apprend avec ses cinq sens. Ouais. Tu vois ?
Bien sûr.
Alors, je commence à voir des IA, et nous aussi, on regarde un peu ce truc-là, mais c'est marrant. Mais bon, ça existait avant. Hein. Ça existait il y a 20 ans où il y avait des boîtes, des startups qui disaient on arrive à déchiffrer les émotions en scannant une vidéo. Tu sais, quand tu parles, là par exemple, on se parle, il y avait déjà 10, 20 ans. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, il y a des boîtes dans l'IA qui se mettent là-dessus en disant en écoutant une voix, on est capable de déchiffrer des émotions. Voilà. Après, moi j'ai une question, mais je ne suis pas une spécialiste. Hein, c'est qu'est-ce qui va se passer sur ces cinq sens? Par exemple, une IA aujourd'hui qui voit une voiture dans l'air, elle n'arrive pas à voir que c'est une voiture dans l'air. Alors qu'un enfant, il va se poser une question parce qu'un enfant assez jeune, il comprend la gravité et s'il voit une voiture qui flotte, il va s'interroger. Bon, il y a tous ces trucs-là. Je pense que là, il vaut mieux poser la question à nos amis de chez Mistral.
Oui, Mistral. C'est Yann Lequin aussi, donc de Meta, ouais. Hein, qui parle beaucoup de ces sujets. Et oui, c'est ces modèles en fait qui se fassent une représentation du monde la plus complète possible avec les cinq sens, en effet, pour pouvoir mieux comprendre, mieux anticiper ce qui va se passer et comprendre la gravité. Mais après, écoute, on pense que c'est quelque chose qui arrive un petit peu. Notamment avec des mondes virtuels là qu'on voit apparaître. Suno là de OpenAI, leur solution de génération de vidéos, a fait poser des questions là-dessus parce que c'était tellement bluffant. On se disait, pour réussir à faire ça, justement, il n'y avait pas trop de voitures qui volaient dans le ciel. Ils doivent avoir une représentation du monde assez dingue. Oui, ça va être un gros enjeu pour avoir une IA donc avec les cinq sens, une IA peut-être un jour. Incarné et après bah peut-être que à ce moment-là il faudra réfléchir à lui donner des droits, des devoirs et tout ça quoi.
Oui, mais encore une fois on a beaucoup de temps et puis tu sais faut aussi qu'on se fasse confiance à nous êtres humains quoi. Ce sentiment de peur il aurait bloqué les vaccins, d'ailleurs il a failli les bloquer, il aurait bloqué l'électricité, on a vu ce qui est arrivé à Tesla, là je parle au monsieur hein, à l'ingénieur, etc., etc. Donc moi, comme je te le disais, je suis d'une nature très optimiste et donc je nous fais confiance pour bien utiliser les technologies pour faire un monde meilleur.
Trop bien. Stéphanie, encore deux questions. Est-ce que tu penses que on peut arriver à l'intelligence artificielle générale et dans le sens une IA qui est capable de faire tout ce qu'on fait dans toutes les professions, par exemple du service, aussi bien que nous? Et est-ce que tu penses que ça peut arriver d'ici quelques années?
Alors, quand tu penses à un métier de service, tu penses à quel type de métier, par exemple?
Tout métier du tertiaire, ça veut dire toute l'économie en dehors, tu vois, d'un emploi, tu vois, qui nécessiterait, tu vois, d'être avec une IA incarnée sous forme d'un robot, tu vois, enfin voilà, toute activité qu'on peut faire en fait derrière un ordinateur.
Alors, la réponse est oui. D'accord.
Et tu vois ça à combien de temps?
Et donc, je trouve aussi, encore une fois, puisque je suis très optimiste, que ça remet en valeur des métiers. Qui était un peu sous-évalué, mais tu sais, le monde, moi je vois hein, avec mon grand âge, le monde c'est un balancier. Hein. Ça va, ça revient, on nous a parlé du télétravail, c'était extraordinaire. Maintenant, on nous dit que le télétravail, il manque tout l'informel, donc t'es moins productif. Bon, tu vois, ça va, ça vient. Oui, je pense que l'IA va être capable de faire 90% de ces métiers-là. Après, il faudra toujours des mécaniciens pour réparer les robots. Il faudra toujours des techniciens de maintenance pour adapter les exosquelettes, etc. etc. Et puis, au final, il faudra peut-être toujours des boulangers pour faire du bon pain bien chaud, bien croustillant, même si des machines font déjà du pain. Et il faudra toujours des aides-soignantes pour aller s'occuper de ma maman. Voilà. Mais encore une fois, si ça peut automatiser des tâches et faire que des emplois comme ça qui étaient désertés et dont on va avoir beaucoup besoin dans les prochaines années reviennent en valeur, tant mieux. Voilà.
Super. Fois,
la technologie, elle est souvent là pour faire un monde meilleur. Au début, on en a peur. Et après, encore une fois, pardon de me répéter, je nous fais confiance à nous tous, pour utiliser cette révolution du mieux qu'on peut. Pour améliorer la vie des collaborateurs et on a encore un peu de temps, hein, mais déjà quand ils sont derrière leurs écrans, bah, ça les aide plutôt que de rester jusqu'à 22h le soir parce que tout d'un coup, il y a 200 mails qui sont arrivés, qu'il faut y répondre, bah, une machine qui les aidera pour aller chercher leur enfant plus tôt et tout. Moi, je pense que ça va nous aider à avoir une vie meilleure et peut-être travailler moins. J'ai un peu changé d'optique là-dessus et d'ailleurs, Bill Gates en parle aussi. Oui, les gens, ils aspirent à travailler moins, à revenir. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Ouais, bah, alors, quoi, il y a 5 ans, la semaine de 4 jours, moi, chez Capa, c'était pas possible. peut-être qu'avec toute cette technologie-là, ça va rendre possible dans beaucoup de sociétés, quoi. J'en sais rien. Donc, on va créer tout ça ensemble, mais c'est ça qui va nous faire kiffer, quoi. C'est qu'on va créer ouais. cette nouvelle vie tous ensemble.
Super, merci pour cette vision optimiste. Ça fait du bien. Et donc, la semaine de 4 jours, la semaine de 3 jours, et peut-être aussi une revalorisation, tu l'as dit, de certains ouais. métiers et une revalorisation du travail humain quand il compte et qu'on ne peut pas s'en passer.
Exactement.
Tu as parlé de l'exemple du pain ou du croissant. c'est très parlant. Stéphanie, dernière question. Ton film ou livre de science-fiction que tu nous recommandes?
Alors, je vais te dire là, Interstellar.
Ah, très bien.
Voilà.
Super.
Je dirais pas pourquoi, mais tout le monde peut le revoir là.
Oui, 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 bien sûr. Film génial, en effet, super. Stéphanie, merci beaucoup pour cet entretien. C'était merci génial de t'avoir.
Je peux dire que tu m'as fait réfléchir.
Hyper optimiste. Mais en fait, tu vois, je t'ai posé plein de questions que je n'avais pas forcément anticipées, qui n'étaient pas forcément préparées. Mais, mais...
Et vraiment, vraiment... vraiment, vraiment, parce que tu vois, tu m'as fait réfléchir aussi, quelquefois on réfléchit en parlant et tout. Mais vraiment, je pense que cette innovation, cette révolution est extraordinaire. Et réfléchissons tous à notre niveau, à comment on peut l'utiliser dans nos boulots pour nous améliorer la vie de nos clients et tout se passera bien, quoi. Voilà. Et après, encore une fois, il y a les bonnes personnes qui sont là pour légiférer quand ça part trop loin, et tant mieux. Et tant mieux aussi, parce qu'au final, cette machine et cette révolution et cette IA, elle peut nous aider à vivre mieux, tous. Et moi, ce que j'aspire aussi, c'est à passer plus de temps ensemble. Voilà.
Magnifique. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était génial. À très bientôt.
Merci à toi. Et encore une fois, félicitations pour ton podcast. J'ai passé un super moment.
Cool.
Et vraiment, les questions, tu sais, je vais les garder en tête. Et je veux bien qu'on se refasse un podcast dans un an ou dans deux ans pour
avec
voir
plaisir.
Comment on aura évolué, tu vois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Parce que je suis sûre, comme je le disais, cette révolution, elle va très vite. Donc, on va aussi changer nos positions très, très vite sur ce qu'on pense, quoi.
Tu peux compter sur moi et j'ai hâte de t'interviewer dans un an et avec Cali 2 et tout ça.
Avec grand
parfait,
plaisir. Avec grand
merci.
Plaisir. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Merci.
Ciao.
Ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.